Voilà, comme ça. Oui, ça va, c'est bien. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No,
no. Not wounded, sir.
Che fai, gradisci?
Ma passato qua, tu che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscevi?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Cinémascope fait sa rentrée aujourd'hui, 12h10, 17h10 sur les ondes de fréquence 7. Une rentrée très chargée avec deux hommages. Tout d'abord, celui à Jean-Luc Godard et à Alain Tanner. Un festival, Play It Again, avec la Maison de l'Image dès ce soir et encore vendredi. Et samedi, et dimanche. Et puis pas moins de 4 films, si le temps nous est donné, avec La Page Blanche, Revoir Paris, Compromat ou encore Tout le monde aime Jeanne. Autour de la table, 3 de nos chroniqueurs. Olivier.
Bonjour, bonjour tout le monde, merci d'être là.
Claude est également présent avec nous.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Et Didier.
Eh bien bonjour.
Alors on va sans tarder peut-être débuter avec malheureusement une actualité triste. Le dernier week-end où 2 réalisateurs nous ont quittés. Il y a eu tout d'abord Jean-Luc Godard, Didier.
2 réalisateurs suisses, oui.
2 réalisateurs franco-suisses peut-être pour Godard.
Oui, bah Godard, que dire sur Godard? Il faudrait une dizaine d'émissions pour commencer à cerner un peu le personnage. Donc, je crois qu'effectivement, c'était tout le monde est d'accord pour dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que ça a été quand même un réalisateur phare de la deuxième moitié du 20e siècle, qui a eu plusieurs phases dans sa vie. Donc le film qui a été vraiment le film leader de la nouvelle vague à bout de souffle avec Belmondo et Ginsberg. Il a eu ensuite cette espèce d'apogée avec Le Mépris, qui a été son premier et son seul film à grand spectacle, avec une star, Brigitte Bardot, Piccoli aussi, qui commençait à être connu à l'époque. Et puis malheureusement, à mon sens, qui s'est perdu un peu après dans des rêveries maoïstes, des essais sur la vidéo, qui étaient vraiment des essais. Et d'ailleurs, ça a créé une décennie où Godard a été assez absent des écrans. Et puis il y a eu un grand retour avec La mémoire me manque. Il est revenu avec effectivement des stars. Donc on a eu Delon, on a eu Depardieu, on a eu d'autres comme ça. Et il a terminé sa carrière plutôt dans des labos, dans des essais. Si quelqu'un veut vraiment connaître le Godard, dernière formule intéressante par rapport à ce que je ressens moi, c'est son Histoire du cinéma, qui est vraiment une somme absolument extraordinaire, qui existe en DVD, on le trouve un peu partout, même probablement à la médiathèque d'Aubenas. Voilà, pour les quelques minutes qu'on peut consacrer à Godard, pour ma part. En tout cas, donc d'un côté, un créateur de génie, et puis il ne faut pas oublier non plus que quelque part, c'était un escroc assez incroyable. Mais bon, un personnage du XXe siècle.
Et puis Alain Tanner également, qui nous a quittés le week-end dernier. Alain Tanner qui était en 2008 aux Rencontres des cinémas d'Europe.
Oui, ça avait été... ce qui avait été fabuleux, moi j'étais très très content de le recevoir parce que c'est un de mes réalisateurs préférés. Et effectivement, on en parlait hors antenne tout à l'heure, Charles Mort-ou-Vif, La Salamandre, Fourbi, tous ces films sont des films qui ont fait date. Et ce qui avait été assez extraordinaire en 2008, c'est l'accueil que les jeunes, en particulier les lycéens, avaient réservé à ces films et aux personnages. C'était devenu un peu une icône des Rencontres de cette année-là pour le public le plus jeune.
Alors moi,
rapidement, du coup,
sur hein
rapidement.
Voilà, alors sur Godard, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en fait, après, donc les films qui ont été cités, l'a connu, il s'est un peu retiré du, enfin, notamment du financement classique du cinéma, et il avait fondé avec un gars, je ne sais pas s'il est toujours vivant, qui s'appelle Jean-Pierre Gorin, le groupe Ziga-Vertov. Donc Ziga-Vertov étant le premier réalisateur russe de type documentariste, hein, mais ça date d'Eisenstein, hein, c'est les années 30. Voilà. Et le Godard visionnaire de son dernier film, quand même, qui s'appelle Olive d'image, pour lequel je crois il avait été primé à Cannes. Et l'idée, ça a été de dire tout a été filmé, donc je pique les images des autres, et en le remontant, je fais un film, et ça, ça peut s'étendre à l'infini. Et bon, il n'avait pas demandé l'autorisation aux autres. Et juste une anecdote, moi, qui m'avait énormément marqué, Godard, bon, je crois qu'ils ont plus ou moins parlé à la radio, enfin, ce week-end, je n'ai pas trop écouté. En fait, quand il a pu avoir une vedette comme Brigitte Bardot, en fait, les producteurs lui ont dit, en gros, ouais, putain, t'as Brigitte Bardot, vas-y, faut en montrer, mon gars. Et lui, il a poussé le zèle jusqu'à cette célèbre scène, tu aimes mes fesses, etc., qui n'a rien à voir avec le film, qui est uniquement un pied de nez au producteur. Du coup, Brigitte Bardot dit, tu les aimes, mes fesses, mais en fait, c'est dédié au producteur, quoi. Et celle-là, tu l'aimes. Et du coup, il a, moi, je trouve le trait de génie, c'est que finalement, dans le film, elle interprète, Brigitte Bardot interprète une actrice. Et là, donc, on a Brigitte Bardot qui interprète une actrice, qui interprète Brigitte Bardot. Ça, pour moi, c'est absolument génial, quoi. Et sur Tanner, donc, moi, je vénère parce que c'est le... J'avais écrit un article une fois là-dessus dans les carnets des rencontres. C'est le gars qui m'a fait sortir de l'innocence au cinéma, quoi. C'est vraiment mes années post-situationnistes. Et je citerai juste Charles Mort-ou-Vive, donc le film où, bon, voilà, c'est un gars qui est le boss, enfin, un propriétaire d'une horlogerie. Bon, après, ses enfants veulent récupérer notamment un, donc ils le font passer pour fou. Il va se tirer chez des jeunes marginaux en Suisse. Et du coup, les autres, pour faire sa rééducation, lui montrent les slogans à l'envers, le truc très situ, quoi. Dont le célèbre « Il n'y a pas de saut de gens, il n'y a que de saut métier ». Donc le truc complètement retourné, quoi. Voilà, c'est l'image que j'ai de Tanner. Mais on peut situer aussi Jonas, qui aura 25 ans en l'an 2000, qui est aussi un long discours sur l'histoire.
Rencontre des cinémas d'Europe en 2008, donc Alain Tanner, on le retrouve, on réécoute sa voix. Il parlait là du désir, le désir de filmer.
Le désir est le moteur essentiel pour n'importe quel créateur. Il ne s'agit pas seulement du cinéma. Bon, parce que moi je fais du cinéma, mais je veux dire, s'il n'y a pas un désir très fort, hein, de peindre ce tableau, de composer cette pièce de musique, etc., ou de faire ce film, ça ne marchera jamais. C'est vraiment le moteur essentiel. Et dans le cinéma, où c'est parfois plus difficile, plus long qu'ailleurs, s'il n'y a pas ça derrière, vous êtes battu. La volonté, non, mais elle arrive après. Elle arrive après, elle fait plutôt partie du processus nécessaire pour arriver au bout du travail. Il faut, bon, bien sûr. Non, mais c'est le désir. Alors, ça peut être des choses totalement différentes selon les gens, hein. Pour moi, c'est toujours le désir d'un personnage, ou deux, ou trois. Mais essentiellement un personnage. Jamais le désir d'une histoire, chez moi. Absolument pas. Ça ne m'intéresse pas du tout aux histoires. Celles des autres peuvent m'intéresser, quand les films sont bons, bien sûr. Mais moi, j'ai jamais eu envie de raconter des histoires. Ce qui m'intéresse plus dans les histoires, c'est de les casser en morceaux. Par contre, je pars toujours d'un personnage. Et tout à coup, ce personnage, homme ou femme, de n'importe quel milieu, intellectuel ou prolo, tout à coup, ce personnage, il m'entre dans la peau et je vis avec lui et il faut que je le recrache. Il faut que j'en fasse quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est ça la définition du mot désir.
Alain Tanner, décédé à l'âge de 92 ans, c'était ce dernier week-end en Suisse. Et là, on l'entend en 2008 au micro de Fréquence 7, au studio, des rencontres des cinémas d'Europe. On va entrer dans le vif du sujet avec cette fois l'actualité. Sur les écrans, par exemple, du cinéma Le Navire, où l'on joue, Olivier, La Page Blanche, un film tiré d'une bande dessinée, enfin adapté plutôt que tiré d'une bande dessinée, éponyme d'ailleurs, hein, c'est le même nom, La Page Blanche de Boulet et Pénélope Bagieux, paru aux éditions Delcourt.
Oui, très, très librement adapté. La Page Blanche, la BD n'est pas, hein, de Pénélope Bagieux, comme tu viens de le dire. La Page Blanche, la BD, le livre, n'est pas sans mérite, au contraire, de très belles planches, une mise en couleur véritablement intéressante, un bel objet, effectivement. Mais Muriel Magellan a pris toute liberté au point de vue esthétique, mais également au, du point de vue scénaristique, du point de vue même de la mise en valeur de certains personnages qui sont présents à l'écran, qui ne sont pas présents ou moins présents, beaucoup moins présents dans le livre. Deux options. Alors le pitch, il est relativement simple. Héloïse a la trentaine, elle travaille dans une librairie, on l'apprend plus tard, chez Gibert. Gibert malheureusement disparu, la grande librairie parisienne. Et puis elle est sur un banc et tout à coup elle se rend compte, assise sur son banc, qu'elle ne sait plus rien. Elle vit une amnésie complète. Alors une amnésie, non pas évidemment une amnésie de ses savoirs et savoir-faire incorporés. C'est toujours prendre ses clés, prendre le métro, etc. Mais elle ne se souvient de rien de ce qui touche à son existence, à sa vie affective, etc.
Sa profession.
Sa profession, ses amis, ses proches, sa famille, etc. Elle a absolument tout oublié, donc une amnésie rétrograde qui dans la réalité à ce degré-là n'existe pas. Les psychiatres, les psychologues parlent même d'ailleurs à ce propos d'amnésie de film, hein. Effectivement, je me suis amusé à aller voir un petit peu l'histoire, enfin c'est un bien grand mot, du cinéma à ce propos. Dans Wikipédia, on trouve 91 films qui utilisent le thème de l'amnésie totale pour écrire l'histoire du film. Alors évidemment, c'est un ressort extraordinaire pour un scénario, puisqu'il va falloir qu'elle redevine, réinvente la totalité de son existence au fur et à mesure qu'elle va rentrer chez elle, retrouver son métier, enfin, etc. Et donc, c'est cette histoire. Alors, je crois que derrière l'excès psychiatrique, psychologique d'une amnésie totale, il y a un problème, évidemment, plus philosophique. Qu'est-ce que c'est que perdre toute sa mémoire affective? Eh bien, c'est tout simplement perdre déjà son identité, ne plus savoir qui on est, ce qu'on a fait, ce qu'on a à faire. Hein. Donc, c'est évidemment, a priori, terriblement excitant. Et puis, et angoissant. Ensuite, éventuellement excitant, pardon, lapsus révélateur. Peut-être que j'aime pas assez la mémoire pour mettre l'angoisse avant l'excitation ici. Et puis, aussi, et ça apparaît rapidement, c'est bien entendu notre rapport aux autres qui est entièrement bouleversé par cette perte de mémoire, parce que ne sachant plus qui l'on est, on ne sait plus non plus qui l'on aime, qui l'on n'aime pas, pour quelles raisons on aime ou on n'aime pas. Et effectivement, c'est extrêmement compliqué. Il faut renouer une relation à chaque fois qu'on recroise le regard de quelqu'un. Et on est évidemment sans arrêt surpris de l'attitude de ces autres, qui peuvent être tour à tour hostiles ou au contraire extrêmement entreprenants, enfin, etc., sans que l'individu qui a perdu la mémoire puisse savoir exactement ce qui lui arrive. Voilà. Alors, on va dire que dans la bande dessinée, l'héroïne en prend son parti et décide effectivement de jouer sur l'aspect excitant. Dans le film, dont le scénario est plus creusé, les personnages plus travaillés, on a un rapport à l'amnésie et à ce qu'on peut en faire qui est plus intéressant, plus constructif, refaire sa vie en mieux. Enfin, c'est un petit peu les perspectives qui, progressivement, au cours du film, s'ouvrent. Sarah Giraudot est absolument parfaite dans le rôle d'Héloïse, dans le rôle de celle qui a perdu la mémoire et cherche à tâtons à retrouver les autres et son identité. Et il y a également Pierre Deladonchamp qui joue Moby Dick, propriétaire exploitant d'une boutique informatique, tout à fait atypique. Et puis Grégoire Ludic dans le rôle de Fred, Fred le tombeur, n'est-ce pas, celui qui collectionne les femmes et qui a voilà. Donc un film qui laisse au spectateur, qui ouvre au spectateur des pistes fort intéressantes. Donc nous avions fait un livre, un film, hein, sur cet ouvrage et sur ce film avec Cathy. Et Et effectivement, on était amené à souligner à quel point le livre et le film étaient dissociés pour, d'une certaine manière, à la limite, donner l'occasion aux lecteurs et aux spectateurs de multiplier le plaisir par deux.
Un livre, un film à retrouver ce dimanche. D'ailleurs, à 11h dimanche, vous pourrez reparler de cette page blanche de Muriel Magellan à revoir. Ou voir au navire aujourd'hui, alors 15h si vous nous suivez en direct, sinon si c'était la rediffusion, courez pour 18h15. Ce film est aussi à l'affiche du Ciné 7 aujourd'hui à 18h à Ruon, soit Privas ou Vivarais, à 18h30. Second film, Revoir Paris, je vous propose la bande-annonce, et on en parle juste après, tous les 4, ou tous les 3 vous allez en parler.
Tout s'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après ?
Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant, il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient.
Est-ce que vous pouvez vous asseoir ailleurs ? C'est là où mes parents étaient assis.
Vous vous souvenez de moi ?
Non. Qu'est-ce que vous faites ici, vous ?
Vous êtes précipité dans les toilettes au premier coup de feu, et vous n'avez pas ouvert.
J'ai pas fait ça.
Il paraît que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé.
Pourquoi vous voulez vous souvenir ?
J'aimerais bien retourner au musée où ils ont été. Pour la dernière chose qu'ils ont vue, j'aurais l'impression de leur dire au revoir.
Faut qu'on fasse ce qu'on aurait dû faire ce soir-là.
Comment ? Vincent,
allez.
Qu'est-ce que tu fais ?
Allez, ça a assez duré, là. J'aurais préféré y être dans ce putain d'attente. Je suis pas sûr que de te souvenir, ça puisse t'aider.
Avant, je me demandais jamais si j'étais heureuse. Maintenant, oui.
Revoir Paris, Alice Winocourt à la réalisation avec entre autres Virginie Efira, histoire librement inspirée des attentats qui ont frappé Paris en 2015. Vous l'avez vu tous les trois, et avant même de démarrer cette émission, vous m'avez dit ce film-là, faut qu'on s'arrête dessus, il est magnifique.
Oui, alors c'est vraiment ce qu'on peut appeler un film balise, hein, en tous les cas sur l'année 2022 ou sur plus longtemps en général. Alors donc effectivement, on retrouve Virginie Efira, Benoît Magimel et Grégoire Collin. Donc en fait, Virginie Efira, donc Mia dans le film, se retrouve par une succession de hasards dans une brasserie où il y a un attentat. Donc effectivement, tu l'as dit, c'est pas sans rappeler. Et ça reste en filigrane tout au long du film, donc les attentats du 13 novembre 2015 pour lequel il y a eu donc le procès cette année. Alors ce qui est intéressant, c'est que je trouve, contrairement aux États-Unis qui ont l'habitude de s'emparer des faits d'actualité quitte à les déformer pour faire des films, là, c'est pas si courant que ça en France, donc ça c'est déjà bien. Après, le film, vous verrez, est dédié à Jérémy, donc c'est son frère qui était présent au Bataclan pendant donc les attentats. Le frère de la réalisatrice, pardon. Et du coup, elle raconte, Alice Winocourt, que durant tout le... Elle voyait les trucs à la télé avec son compagnon, et il se tenait la main et tout, et en fait, elle a su après que son frère Jérémy se tenait la main aussi de ses voisins. Du coup, dans le film, on voit ces grosses scènes en plan, en gros plan, de se tenir la main. Alors que je trouve que, effectivement, on en a un peu parlé, c'est pas tant un film sur les attentats, même s'il reste en filigrane, mais c'est un film qui est beaucoup plus universel. Il est sur la reconstruction après, tentative après chaque traumatisme, mais il est aussi sur le déni, donc incarné à merveille par Benoît Magimel, sur le mensonge, donc par Grégoire Collin, le compagnon, et puis sur la culpabilité, parce que la réalisatrice avoue que, regardant le truc à la télé, elle culpabilisait de pas être avec son frère, en fait, au Bataclan. Alors après, un truc, on l'a entendu dans la bande-annonce, puisqu'il est parlé de musée, effectivement, donc parce qu'elle a perdu la mémoire, en fait, Mia, donc après 3 mois passés en famille, elle va essayer de remonter le fil, donc elle se rend sur place, elle rencontre une association, dont une fille, une jeune femme, dont les parents sont morts, et elle est skiée, ça on l'a entendu, hein, qui essaye de comprendre ce qu'ils ont vu de bien à la fin, et ils sont allés au musée, donc pareil, culpabilité et tout, et elle a, en fait, une carte postale des nymphéas de Claude Meunier, venait. Et en fait, ça, c'est génial. C'est le symbole du film, quoi. C'est-à-dire que, en fait, les nymphéas, c'est 250 tableaux, en fait, qui sont collés dans une pièce et qui font le tour d'un musée. Et elle, en fait, avec ce truc, elle essaye de repérer sur quelle partie c'est. Et donc, voilà, on reconstruit un puzzle, quoi. C'est le but du film. Donc, ça, c'est hyper métaphorique. Et, alors, deux derniers trucs que j'ai trouvé intéressants, c'est que c'est Paris est aussi un personnage hyper important du film. Ça m'a rappelé, toute proportion de gardier, par moment, le film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud, où Jeanne Moreau déambulait dans Paris à la recherche de Maurice René sous la musique de Miles Davis. Et là, du coup, on atterrit aussi chez les sans-papiers. Et là, je trouve que c'est traité sans misérabilisme, mais plutôt sur l'aspect de la solidarité et de l'entraide entre eux. Donc, je trouve, enfin, voilà, pour toutes ces raisons, c'est un film. Enfin, pour moi, il faut le voir, ça c'est sûr, ça c'est évident, faut aller le voir. Et qui restera dans ce qu'on peut appeler effectivement les films balises, quoi.
Vous l'ajoutez quelque chose?
Oui, ben, alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, absolument. Moi, j'ajouterais, j'ai trouvé que le film avait des fulgurances. C'est-à-dire, le film est exceptionnel, voilà, mais il y a des séquences qui tout d'un coup surgissent comme ça, et il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. Alors, d'abord, on a effectivement la séquence, tu en parlais tout à l'heure un peu, sur l'association qui, et ça je ne le savais pas, qui se réunit tous les semaines ou tous les 15 jours dans le café où ça a eu lieu. Et il y a une séquence, moi, je trouve peut-être la séquence la plus triste que j'ai jamais vue au cinéma, en tout cas depuis longtemps, c'est quand les balayeurs arrivent, le temps a passé, donc il y a tous les gens qui sont venus amener des gerbes, des bougies, etc. Et un soir, les balayeurs arrivent et balayent. Voilà, on passe à autre chose. Alors c'est un symbole aussi très très fort dans le film, parce que ce sont des gens qui essaient de passer à autre chose. Donc Mia qui a perdu la mémoire, Magimel qui lui, est quelque part, aurait bien aimé la perdre, parce que ce qu'il a vécu est assez horrible. Voilà, donc moi ce que j'ai à dire du film en plus, mais je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est un film important qui, je pense, va rester dans les mémoires.
Oui, incontestablement. Donc Alice Vinocourt elle a fait la Fémis comme scénariste, hein, ce qui explique peut-être la précision du scénario. Au niveau des moyens, c'est aussi au niveau de la photographie et de l'image qu'on est extrêmement bien servi. Le sujet est extrêmement bien servi donc par les moyens de l'artiste. Hein, je crois qu'on est tous d'accord pour le dire. Photographie, comme elle photographie Paris, comme elle photographie les personnages. Elle a eu, comme pour dans Proxima, elle a eu l'aide de Jean-Stéphane Bron, qui apparemment est un compagnon de travail fort utile, enfin si on peut dire ça. Et je pense qu'il y a une complicité entre les deux qui explique peut-être aussi la force de ce film. Encore une fois, donc le problème de l'amnésie, mais alors celle-là bien réelle, bien identifiée, hein, d'un point de vue médical, avec effectivement trois phénomènes, c'est-à-dire l'amnésie réelle qui nous paraît à nous, qui peut nous paraître totalement irréaliste, mais elle a effectivement effacé. Alors quand on l'entend dans la bande-annonce, une femme lui dit « Mais vous vous êtes enfermé dans les toilettes et vous avez empêché les autres de rentrer. » Et elle se dit « Mais j'ai... » Spontanément, elle dit « J'ai pas fait ça. » Parce qu'elle au plus profond d'elle-même, elle sait qu'elle n'est pas celle qui peut faire ça. Mais comment en être sûr à partir du moment où l'amnésie est réelle? Donc il y a un vrai problème. Deux autres aspects qui sont, à mon avis, bien traités dans le film et qui sont soulignés par les professionnels de la mémoire. Deux aspects, donc le flashback, c'est-à-dire le fait que par moment peuvent revenir des images extrêmement précises dont le patient ne sait pas si elles sont réalistes ou pas, ce qui est quand même un problème. Et puis ce que les psychiatres appellent, lié à l'amnésie ou à ces situations de traumatisme, les diamants. C'est-à-dire, il se passe dans l'histoire de ces grands traumatisés des choses qui sont exceptionnellement humaines et sur lesquelles on peut se reconstruire. Le fait qu'on a été aidé, le fait qu'on a aidé, le fait que les secours ont fait un travail exceptionnel, enfin, tout ça sont des diamants du traumatisme, ce sur quoi on peut se... Et alors pour replaider dans la direction d'une universalité de ce film et par conséquent la nécessité d'aller le voir, je dirais que on en avait parlé avec Claude à l'issue de la projection, je crois que nous avons tous nos traumatismes. plus ou moins grave, plus ou moins...
que j'ai celui entendu, qui... J'ai pas entendu de bruit de casserole,
que,
moi,
ouais, c'est ouais, que celui qui n'a jamais eu de traumatisme me jette la première pierre. Bam ! Claude, arrête ! Et moi, j'y ai vu, évidemment, en grand, comme sous un microscope, j'y ai vu en grand... toutes nos tentatives de reconstruction de nous-mêmes autour de blessures, de déceptions qui ont pu nous arriver dans l'existence. Donc, de ce point de vue-là, de rechef, un film à aller voir.
Alors, juste un dernier point, peut-être, parce que vous en avez parlé, il ne me semble pas là au micro, mais avant, on n'est pas dans un style américain, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour voir des balles, du sang, etc.
Non,
c'est le contraire.
Plus un film sur l'après-attentat que sur les attentats.
Et par contre, juste pour dire par rapport à ce que tu as dit, en fait, il y a l'association qui va bientôt se dissoudre, puisque les procès ont... Il n'y a pas eu d'appel. Le président a été invité de l'association à la projection du film, il n'a jamais voulu y aller, parce que... Donc, il n'a jamais voulu y aller, on peut imaginer. Et par contre, elle lui a envoyé le lien. Et c'est vrai que peut-être 2 minutes après le début du film, on entend la mitraillette, enfin 3 minutes, et rien que ça, il a arrêté le film. Mais il reconnaît que, et c'est fou, c'est vachement fort, quoi.
Ouais, ce qu'on peut dire aussi, juste en 2 mots, c'est le film est vraiment porté par les 2 interprètes principaux, Virginie Efira, formidable, et Benoît Magimel, qui est en train de prendre une dimension
dans le cinéma Depardieu français. Il devient
absolument. Depardieu. On disait que Depardieu, c'était le nouveau Gabin, et Magimel, c'est le nouveau Depardieu. C'est exactement ça.
On lui souhaite pas pour tous les aspects de l'existence, mais...
Non, surtout qu'on va parler d'un monde russe d'ici quelques temps, qui n'est pas très joli. Alors quand même, pour Revoir Paris, eh bien, c'est le titre de ce film, hein. C'est aujourd'hui au Navire, 15h-18h, demain 21h, et sans quoi vous pouvez aussi le voir au cinéma Le Vivarais à Privas, aujourd'hui à 18h30, Compromat, le 3e film, il va falloir qu'on aille vite.
Jean-Fabienne, comment allez-vous ?
Bonjour Mathieu, ça va et vous ?
Bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Très bien.
Papa !
Oh mon petit jeton ! Comment ça va ?
Tu restes avec moi aujourd'hui ?
Moi je peux pas, mon cœur.
Вы обвиняетесь в распространении детской порнографии в интернете.
Не может быть. Не может быть.
За что тебя посадили?
Без понятия.
Tout le dossier est constitué de faux, plus ou moins grossier.
Compromat?
Pourquoi contre Mathieu ? Qu'est-ce qu'il leur a fait ?
J'aimerais avoir des nouvelles de ma fille aussi. Je veux voir Alice. C'est tout ce que je te demande.
Слушай, тебя посадят в тюрьму, тебе дадут 10-15 лет. Ты пропадешь.
Француз пришел из Иркутска! Открывай!
Mathieu Roussel, преступник, самый разыскиваемый.
Quelqu'un sait, vous êtes là ? Personne ne doit savoir, ni les Russes, ни la presse, personne.
Ils m'ont кто-то помог. Je te présente, Svetlana. Где этот гребаный француз?
Я не знаю.
Je ne vais pas mettre en péril nos relations avec la Russie pour vos beaux yeux. Hors de question d'approuver une opération clandestine pour vous faire quitter le territoire.
Он пытается пересечь эстонскую границу.
La seule solution, c'est de vous rendre aux autorités russes.
Mais je suis innocent, bordel !
Compromat à voir aujourd'hui, par exemple, du côté du navire, ce sera à 18h et 20h45. Film aussi tiré d'un roman ?
Alors oui, mais un roman autobiographique, puisqu'il s'agit du roman de Johann Barbero, qui était directeur de l'Alliance française en Sibérie, et qui a fait l'objet d'un compromat. Alors un compromat, moi je ne savais pas ce que c'était. Voilà. C'est un dossier monté. Alors là, il s'agit du FSB en Russie, mais ça peut être dans d'autres pays.
C'est ce qui a remplacé le KGB.
C'est ce qui a remplacé le KGB, le FSB. Et donc c'est un dossier qui est monté de toutes pièces pour accuser quelqu'un de alors ici, en l'occurrence, dans le livre, dans la réalité, comme dans le film, de pédophilie, d'actes sexuels sur sa fille, etc., etc. Donc c'est un film un peu hybride dans le sens où il y a une réflexion sur un certain nombre de choses dont je vais parler, mais c'est aussi un film d'aventure, un film d'action. Voilà, donc le départ du film est exactement le livre, c'est-à-dire directeur de l'Alliance française, parce qu'il a à la fois monter un spectacle très valeur française où un couple d'homosexuels s'embrasse sur un balai qui a absolument déplu, et parce qu'il a aussi, sans le savoir, un peu éméché, dansé avec la belle-fille d'un chef du FSB, va se retrouver justement victime d'un compromat. Et donc ce type-là, qui est un Français moyen, qui est là-bas et tout, comprend rien. Parce que d'un jour, on débarque chez lui, on l'emperne, on l'emmène en prison, donc dans des conditions épouvantables, on l'accuse des pires crimes du monde, etc. Et là, il y a toute une aventure qui commence où il va effectivement s'évader avec toutes les difficultés que ça peut poser. Alors, ce qui est intéressant dans le film, j'ai trouvé, c'est qu'il y a plusieurs réflexions, enfin plusieurs moments où il est très clairement montré et dit, et avec ce qui se passe aujourd'hui en Russie, Ukraine, ça prend une dimension, que les gens qui lui en veulent, en fait, nous détestent et nous méprisent, parce que les valeurs de l'Ouest, les valeurs de l'Occident sont totalement l'homosexualité, le mariage pour tous, etc. Ça passe absolument pas.
La liberté d'expression.
On n'en parle pas. Et on se dit, oui, après, le peuple russe, qu'est-ce qu'il a connu? Il a connu le régime des tsars, il a connu le communisme, maintenant il connaît l'autocrate Poutine. Donc le peuple n'est pas habitué à une certaine liberté de penser, de choses comme ça. Et on peut appliquer ce raisonnement à Daesh, etc., etc., un peu le film dont on parlait tout à l'heure. C'est pas seulement des raisons politiques, il y a quelque chose de très profond. Et il y a une séquence qui est très très forte et qui montre bien ça. Il est invité à une chasse, alors qu'il n'est pas du tout chasseur, ce Français. Et un de ses contacts lui dit ça. Il lui dit, mais ce spectacle, c'est une honte. Et je comprends bien, c'est un spectacle purement français. Nous vous méprisons. Olivier, je crois que tu l'as vu aussi.
Oui, je l'ai vu. Effectivement, j'ai commencé le bouquin hier. Alors, tu disais adapté d'un roman, non adapté d'un... Il se trouve que c'est un peu compliqué. Johann Barbero a en effet laissé tomber ses fonctions de directeur de l'Alliance française à Irkoutsk et de la fonction publique en général pour se mettre à l'écriture. Et la première chose qui frappe quand on commence le bouquin, c'est que c'est très très écrit, quoi. À tel point que ça finit par ressembler effectivement plus à un roman qu'à un témoignage. Bon, donc adaptation à l'écran, fidélité au genre du thriller. Donc là encore, quelques libertés prises avec certainement la réalité. Je veux bien qu'effectivement la Russie, ça soit pas spécialement l'endroit où je souhaite passer mes prochaines vacances. Mais là, on est quand même pas très loin de la caricature, avec une Russie sombre, avec tout est en peinture kaki, etc. Les gars du FSB, on voit à 15 bornes à 10 de distance qui sont du FSB. Ce qui m'a le plus gêné, moi, enfin, on en avait parlé au cinéma, c'est quelques invraisemblances de scénarios qui peut-être s'expliquent du fait que l'aventure de Johann Barbero durant plus de deux ans, deux ou trois ans, le film est ramassé sur 5-6 mois. Il faut à un moment donné procéder à des raccourcis que je trouve un petit peu périlleux. Voilà. Sinon, effectivement, un thriller qui se voit avec plaisir quand on aime le genre, et puis une vraie réflexion sur la politique, effectivement.
Incarné par Gilles Lelouch, je ne sais pas si on l'a dit.
Oui, non, là, on ne l'a pas dit. Mais
on l'a pas dit, mais très bien fait.
Excellent, excellent.
Très, très bien fait. Et Madame Kulik, je ne sais pas comment le prononcer, qui joue la belle russe rédemptrice parfaitement.
Donc, à voir du côté du navire, 18h20h45 au Ciné 7 et également à Rue 11, donc au Ciné 7 et également du côté de Privas. C'est compromat. Messieurs, est-ce qu'on repousserait pas je suis désolé, mais. Tout le monde aime Jeanne à la semaine prochaine.
Mais comme
parce qu'elle est encore à l'affiche la semaine prochaine, la chère Jeanne.
Parlons-en la semaine prochaine. On peut quand même engager peut-être les auditeurs à aller jeter un œil. Si certains auditeurs sont effrayés du fait qu'on a une stand-upeuse en rôle principal, ben n'ayez pas peur. Elle joue vraiment. Et elle joue de
tu
manière...
Tu parles de Blanche Gardin.
Je parle évidemment de Blanche Gardin, pardon. Ça me paraissait, oui, bon, clair. Oui, oui. Ça ne l'était pas du tout. mais effectivement, elle joue, et elle joue même avec une certaine économie, et donc ça vaut le coup.
Donc on revient la semaine prochaine avec Tout le monde aime Jeanne. On revient aussi la semaine prochaine avec Le Tigre et le Président, qui est encore à l'affiche cette semaine, la semaine prochaine. Donc promis, on en parlera, on les mettra tout de suite sur la table. Sinon, vous avez encore d'autres films qui sont à voir actuellement, comme Canaille ou La Dégustation. Nous n'avons pas le temps d'en parler, alors nous allons en rester là. Juste le temps pour moi de vous signaler que la Maison de l'Image propose dès ce soir et jusqu'à dimanche une participation à la 8e édition du festival Play It Again, qui est une proposition nationale. Et ce soir, vous pourrez voir, entre autres, La Cité de la Peur, oui, avec Monsieur Chabat et toute l'équipe des Nuls, sur le grand écran à 20h30. Et c'est en séance plein air au Château de Blou, du moins si le temps reste ainsi, sinon c'est à la Vesprade. Demain, à la Vesprade, Rashomon, en version originale, bien sûr, Akira Kurosawa. Film assez rare, Didier, tu me disais, à
film
voir
assez
sur,
rare
sur
et grand écran. Film alors historiquement très intéressant puisque c'est le film asiatique qui a amené le cinéma asiatique en Europe, Lion d'or à l'époque au Festival de Venise.
Et qui a introduit juste, parce qu'en fait c'est un triptyque en fait, c'est la même histoire racontée trois façons différentes et je crois à ma connaissance que c'est la première fois qu'il y avait ce type de narration en fait dans le cinéma.
Voilà. À voir samedi, donc demain, 20h30, à la Vesprade, hein, cette fois-ci. Et puis dimanche, Le Jouet de 76, de Francis Weber, avec Pierre Richard, notamment, et Michel Bouquet. 16h30, là, cette fois-ci, la diffusion. Tarif unique pour chaque séance, 4 euros, le festival Play It Again, qui se déroule aussi un peu partout au niveau national.
300 salles.
300 salles, rien que ça. Merci à tous les trois. On se dit... À la semaine prochaine, Cinémascope, c'est 12h10 et 17h10, pardon, les vendredis. Mais si vous avez manqué le début, il y a le replay sur le site fréquence7.net. Bye bye.
Bye bye.
Au revoir.
Voilà.